Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, on va parler littérature avec le retour de Nicolas Carreau et puis on va parler d'une expo très très exotique avec Frédéric Le Ternier. Il y aura évidemment Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage, notre petit nouveau Rémi Jacob pour le journal des médias et les audiences télé d'hier soir. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct pour évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Raison de plus, il y aura un live, je vais tout vous raconter. Notre infomédia, c'était la bonne résolution en vogue cette année. Fini les réseaux sociaux, mieux que le dry January, janvier déconnecté. Où en est-on un mois après? On fait le point avec Manon Blanc, c'est la journaliste à 20 minutes qui nous a donné cette idée. Très bon papier. Et Laurent Carilla, il est psychiatre et addictologue, c'est du sérieux. Nous invitons ensuite le nouveau présentateur du JT d'M6, c'est Dominique Tenza. Vous allez le découvrir. Et enfin, en deuxième heure, le comédien et réalisateur Nicolas Maury, révélé par la série 10%, on l'a vu également dans Les Tuches 3. Dans son premier film Garçon Chiffon, il s'était mis à la chanson. Et voici son premier album, La Porcelaine de Limoges. Petit cadeau, il nous fera un live, donc en direct, dans ce studio. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Rémi Jacob.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
Donald Trump autorisé à revenir sur Facebook et Instagram également. Les nominations au César avec un film qui apparaît comme le grand favori. Et puis, on en sait plus sur le projet de chaîne de Xavier Niel qui convoite le Canal 6. On a demandé à un spécialiste de comparer son projet avec celui de M6. Vous l'entendrez dans un instant.
Mais d'abord, c'est la tradition. On commence par les audiences. Qu'ont regardé les Français hier soir le top 3?
Et c'est France 2 qui se classe sur la première marche du podium avec l'histoire d'Annette Zellman, 3,4 millions de téléspectateurs, soit 16,6% du public pour ce drame porté par Julie Gayet. À la deuxième place, on retrouve TF1 avec la série The Resident, 2,6 millions de téléspectateurs, soit 12% de part d'audience. Enfin, M6 clôture ce podium avec Qui veut être mon associé, 1,8 million de téléspectateurs et 10% de part d'audience pour cet épisode, avec hier au casting un certain Blaise Matuidi dans le jury d'entrepreneurs, et c'est en hausse par rapport à la semaine dernière.
Europe 1, le journal des médias.
On démarre avec cette information tombée hier soir, c'était un breaking news du New York Times et de CNN. Donald Trump, bientôt de retour sur Facebook et Instagram.
Une annonce effectuée par le groupe Meta, propriétaire de Facebook et Instagram. 2 ans après son exclusion, l'ancien président des États-Unis est donc autorisé à revenir sur ses 2 réseaux sociaux. Ses comptes avaient été, on le rappelle, suspendus suite à l'invasion du Capitole en janvier 2021, invasion au cours de laquelle il avait incité ses partisans à la violence en juin 2021. Facebook avait décidé que cette exclusion durerait 2 ans et que Donald Trump ne pourrait revenir que quand les risques pour la sécurité publique auraient disparu. Du côté de Meta, on justifie cette décision en expliquant que le public doit, je cite, « pouvoir entendre ce que les personnalités politiques disent afin de faire des choix éclairés ». En revanche, Donald Trump est prévenu, s'il publie à nouveau des contenus transgressifs, ils seront, je cite, « retirés » et il sera suspendu entre 1 mois et 2 ans selon la gravité de l'infraction.
On revient en France. Les nominations des Césars ont été dévoilées hier.
Une cérémonie qui aura lieu le 24 février prochain. Ça se passera à l'Olympia. Ça sera diffusé en direct et en clair sur Canal+ à partir de 20h45. Alors, qui pour succéder à Illusion perdue de Xavier Giannoli? C'était le grand vainqueur l'an passé avec 7 statuettes. Et bien cette année, c'est L'Innocent de Louis Garrel qui fait figure de favori. Pas moins de 11 nominations pour cette comédie où il est question d'un braquage en famille.
On a dit, c'est quoi cette fois-ci? C'est le smartphone?
Du caviar.
3000 euros le kilo?
Attends, tu appelles tout de suite et tu dis oui! En plus, vous faites ça en famille!
Louis Garrel, qui est nominé au titre de meilleur acteur, il sera face à des poids lourds du cinéma français comme Jean Dujardin pour le film Novembre, Benoît Magimel pour Pacifiction, Vincent McCain pour Chronique d'une liaison passagère ou encore Denis Ménochet pour son rôle dice Peter Van Kant. Louis Garrel qui est également en lice pour le meilleur scénario, tandis que ses partenaires de jeu Anouk Grimbert, Noémie Merlant et Roche Dizem concourront, eux, dans les catégories des meilleurs seconds rôles féminins et masculin.
Et un autre film pourrait également rafler la mise.
Ouais, c'est La Nuit du 12 avec, alors non pas 12, mais 10 nominations. Il faut suivre pour ce polar de Dominique Moll. Dominique Moll qui avait déjà remporté le César du meilleur réalisateur pour Harry, un ami qui vous veut du bien. C'était en 2001. Un petit tour pour finir du côté de la catégorie meilleure actrice. Là aussi, la compétition sera de très très haute volée entre Fanny Ardant pour son rôle dans Les Jeunes Amants, Juliette Binoche pour Ouistreham, Laure Calamy pour À plein temps, Virginie Efira pour Revoir Paris et Adèle Exarchopoulos pour Rien à foutre. Alors qui sera choisi
titre.
Alors qui sera choisi par les 4705 membres, c'est très très précis, de l'Académie des Césars? Eh bien, réponse le 24 février prochain au cours de cette cérémonie, une cérémonie dont Europe 1 est partenaire.
On en sait désormais plus sur le projet de Xavier Niel, candidat pour récupérer la fréquence de M6.
Ah oui, on vous en parlait mardi ici même, ça va devenir dans les prochaines semaines un véritable feuilleton. Le propriétaire du groupe Iliad qui détient Free est candidat à la reprise d'un canal TNT, cela dans le cadre du renouvellement des fréquences de TF1 et M6. Et en attendant d'être auditionné par l'ARCOM et ex-CSA le 15 février prochain, il a apporté des précisions sur son projet. Alors, à quoi ressemblerait sa chaîne? Eh bien, l'un de ses piliers serait une programmation, je cite, riche en création patrimoniale de première partie de soirée. Des engagements renforcés envers la création musicale sont également évoqués, tout comme une large part accordée à l'information. Alors pour y voir plus clair, j'ai demandé à Philippe Bailly, fondateur du cabinet NPA Conseil, de comparer son projet avec celui de M6. On l'écoute.
Sur le papier, on a deux projets relativement proches. La musique, Xavier Niel en promet, et c'est aussi dans l'ADN d'M6. La production patrimoniale, en clair, la fiction et le documentaire. M6 vient de signer un accord avec les associations de producteurs dans lequel il s'engage à augmenter la part consacrée à la fiction et au documentaire. En bref, on a un peu de mal à voir des différences essentielles entre les deux projets. On peut supposer que la prime au sortant bénéficiera à M6, qui tient cette fréquence depuis 25 ans maintenant. Mais une surprise n'est jamais à écarter. On l'a vu l'an dernier avec le projet avorté de fusion entre TF1 et M6.
On reste du côté de l'ARCOM avec la nomination prochaine de deux nouveaux conseillers.
Et oui, il s'agit de Bénédicte Lesage et Antoine Boilet qui devraient succéder à Carole Bien-Aimée Besse et Jean-François Marie. Alors leur nom ne vous dit probablement rien, mais ils ont été tous deux très très influents dans l'audiovisuel. Une très longue carrière dans l'audiovisuel. La première a été notamment directrice des fictions de M6 et de la jeunesse à France 2 avant de devenir productrice, tandis que le second a occupé de nombreux postes à France Télévisions où il est actuellement directeur adjoint du marketing et de l'audiovisuel. Leur nomination doit être validé officiellement par un décret qui sera publié dans les prochains jours.
Sport, on va parler des droits télé de Roland-Garros, le tournoi de tennis, droits qui sont très convoités.
Oui, un des droits qui sont aujourd'hui détenus par France Télévisions et Amazon, mais dans les prochains mois, un appel d'offres va être lancé pour la diffusion du tournoi à partir de 2024. De nouveaux acteurs pourraient s'inviter dans la partie. Le directeur de la rédaction et des programmes de beIN Sport, Florent Ouzeau, est ce soir l'invité de Jacques Vendroux, un entretien enregistré hier au cours duquel il évoque cet appel d'offres et il ne ferme aucune porte. Je vous propose d'écouter cet extrait en avant-première.
Concernant Roland-Garros, pourquoi pas? Il y a des appels d'offres. La Fédération française de tennis va mettre sur le marché les droits de Roland-Garros. Il y a souvent un lot pour le payant et il y a souvent un lot pour le gratuit. Nous, on l'a dit depuis 2012 quand on s'est lancé, notre président l'a toujours dit, il veut que beIN Sport, et il voulait que beIN Sport, et il a annoncé que beIN Sport devait être une chaîne multisport premium, pas que de football. On nous a dit au début, vous êtes qu'une chaîne de football. C'est faux, on l'a démontré très rapidement et on l'est encore aujourd'hui. On a eu une chaîne multisport.
Florent Ouzeau, directeur de la rédaction et des programmes de beIN Sport au micro de Jacques Vendroux. Et c'est à retrouver ce soir en intégralité dans Les Décideurs du Sport, une séquence diffusée tous les jeudis à 20h dans Europe 1 Sport.
Et on termine ce journal avec Didier Bourdon, le comédien, bientôt dans une nouvelle fiction sur TF1.
Ah oui, l'ancien membre des Inconnus qui va se glisser dans la robe d'un avocat. Cette fiction va s'appeler Daron, comme le révèlent nos confrères du Parisien. Il campera un ténor du barreau qui découvre des choses pas très très nettes sur son frère suite au décès de leur père, un frère qui est également avocat avec qui il est associé au sein d'un cabinet. Bref, une histoire de famille sur fond de comédie. Il donnera notamment la réplique à Mélanie Bernier et Mathilde Amet. Le tournage débute ce lundi à Bordeaux et ça sera un épisode pilote, hein, concrètement, eh bien, ça veut dire que si le succès est au rendez-vous, cela pourrait devenir à l'avenir une série récurrente.
Mais nous, on est certain que vous reviendrez demain. Merci beaucoup, Rémi Jacob.
Plaisir.
À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour pour la nouvelle année. Beaucoup de Français se sont promis de décrocher de beaucoup de choses, y compris les réseaux sociaux. Où en est-on un mois après ? Réponse avec la journaliste de 20 minutes qui a eu cette très bonne idée d'article et un psychiatre et addictologue, Laurent Carilla. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Mieux que le Dry January, le janvier déconnecté. Début janvier, le quotidien 20 minutes publiait un article qui compilait des témoignages sur les bonnes résolutions de 2023 des Français. On s'attendait, comme toujours avec ce marronnier, au grand classique. Faire un Dry January, arrêter de boire de l'alcool, c'est-à-dire s'inscrire dans une salle de sport, manger moins gras, sans sucre et faire du yoga. Et surprise, cette année, les gens évoquaient spontanément l'intention pour eux de décrocher des réseaux sociaux. Ça tombe bien, on en est 3 semaines plus tard. Où en est-on ? Normalement, ça ne dure pas les bonnes résolutions. Bonjour Manon Aublanc.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à 20 minutes, c'est vous qui avez eu l'idée de ce papier. Merci. Je précise, c'est votre première radio.
Oui, c'est
je précise parce que vous me l'avez précisé, parmi les Français qui ont témoigné, il y avait Johan, on l'a retrouvé, on va lui demander tout à l'heure s'il a tenu sa promesse. Laurent Carilla, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de médecine, psychiatre, addictologue.
C'est
et
ça.
Vous publiez chez Fayard, On n'a qu'une vie, conseil pour souffler, déculpabiliser et prendre du plaisir. Et on voit aussi, parce que vous êtes médiatique, on voit également intervenant régulier dans l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2.
C'est
Manon Aublanc, que vous disaient vos témoins, ou plutôt, je vais poser une question différemment, pourquoi les gens que vous aviez au téléphone, que vous aviez sondés sur leurs bonnes résolutions, voulaient absolument quitter les applis et les réseaux sociaux ?
Bah en fait, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est parce que nos lecteurs estimaient que ça leur prenait trop de temps, une perte de temps et d'énergie, et donc ils voulaient consacrer leur temps à autre chose. La seconde, c'est que certains se sont rendus compte que à la moindre occasion, ils sortaient leur téléphone et allumaient leurs réseaux sociaux, que ce soit dans la queue du supermarché ou dans les transports en commun. Et puis ensuite...
ça, c'est pas très grave, parce qu'on n'a rien d'autre à faire que dans la queue d'un supermarché.
C'est pas très grave.
C'est pas comme le faire à la place de parler avec ses enfants ou lire un livre.
Bien sûr, mais certains nous disaient qu'ils préféraient à la limite écouter la radio, écouter un podcast ou de la musique.
Ils ont raison, il vaut mieux écouter Europe 1 que sur son téléphone.
Il y en a d'autres qui nous expliquaient, et ça c'est le cas notamment pour Instagram et TikTok, que les informations qu'ils trouvaient sur les réseaux sociaux étaient parfois futiles. Alors, ils évoquaient les vidéos d'animaux, les vidéos de chutes. Et puis, ça, c'est le cas aussi pour Instagram. Il y avait un côté mettre fin à la course à la visibilité. On reproche souvent à Instagram d'être une dictature de l'apparence. En l'occurrence, pour le cas de Facebook, ils évoquaient plus une fausseté dans les liens, c'est-à-dire les amis qu'on garde sur Facebook sont parfois des gens à qui on ne parle qu'une fois dans l'année pour leur anniversaire. Et donc, ils se sont dit que ça ne valait pas forcément le coup de le garder. Et le dernier point qu'ils ont évoqué, c'était effectivement un climat anxiogène, jusqu'à parfois haineux. Donc, entre la guerre en Ukraine, les gilets jaunes, le coronavirus. Sur ce point-là, ils parlaient notamment de Twitter. Ils disaient, bah voilà, c'est des réseaux sociaux où on est dans la critique permanente. Il y a parfois des insultes, parfois du racisme, de l'homophobie, et on n'a plus envie de subir ça.
Laurent Carilla, je rappelle que vous êtes psychiatre et addictologue. Est-ce qu'on peut parler d'une addiction aux réseaux sociaux comme on peut en parler, puisque Dry January, ça fait référence à le fait d'arrêter l'alcool ?
Alors, Dry January, c'est pas pour l'addiction. Dry January, c'est pour faire le point sur sa consommation, plutôt dans la consommation excessive. On peut faire un parallèle avec l'usage problématique du smartphone, des réseaux sur Internet, etc. L'addiction, c'est vraiment une minorité qui va être addict. On est plutôt dans un usage problématique. On est tous hyper connectés, tout le monde. On a tous des smartphones, on regarde tout le temps, etc. Et il y en a qui sont dans l'excès. On peut rapprocher ça donc de la consommation excessive de l'alcool. On a une consommation excessive de smartphones et tout ce qui est généré derrière.
Laurent Carilla, vous animez également un podcast Addiction avec un K.
Oui.
Et justement, cette semaine, il était question de l'addiction aux écrans. Ça ne pouvait pas mieux tomber. On dirait que vous l'avez fait pour nous. Vous receviez Marion Gagnon, elle est animatrice radio. Elle utilise son smartphone 16 heures par jour, dit-elle, en toutes circonstances. On l'écoute.
J'en étais arrivée à un stade, à un moment où je regardais mes Insta quand je conduisais. Bonjour. Depuis, j'ai absolument arrêté parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que tu peux quand même faire un trajet sans regarder ton téléphone. Sinon, ça n'a pas de mindset. Tu l'entends vibrer, tu l'entends.
Ouais.
Et là, tu vois qu'il y a un petit souci.
Docteur, on en est à quel stade là ? Quand on regarde son Instagram en conduisant, on est au-delà de la fréquentation excessive.
C'est fortement déconseillé d'ailleurs. Hein, de
évidemment, évidemment.
Enfin, vraiment, c'est un message
non, je
ne parle
pas là, c'est même dangereux. Là, en l'occurrence, votre vie est en danger.
Moi, c'est ça, on met sa vie en danger, on peut avoir un accident de la route, etc. Ça, c'est montré, démontré, archi-démontré. Là, comme elle le décrit, et je lui ai fait passer un test dans ce podcast, elle est à un stade proche de l'addiction, hein, quand même. C'est-à-dire qu'avec des conséquences qui sont potentiellement négatives pour elle.
Et alors, on fait quoi pour se soigner ? Vous lui avez fait une ordonnance ? Non, mais je suis sérieux. Vous lui avez fait une ordonnance ?
Non,
vous êtes médecin. Mais donc, on ne laisse pas partir les gens comme ça.
Non, on donne des conseils. Alors, on n'est pas dans tout ce qui est comportemental, on n'est pas dans l'abstinence. Vous voyez, comme on peut penser avec l'alcool, la cocaïne, on va aller sur un chemin d'abstinence, c'est-à-dire l'arrêt définitif.
On sèvre les gens, il faut les mettre dans des endroits spécialisés.
Oui, on peut le faire aussi en consultation, à la maison, etc. Mais on les sèvre, on les rend abstinents, on maintient l'abstinence. Là, on ne peut pas rendre abstinents les gens en réseau, vous êtes d'accord ?
Je ne suis pas d'accord, je vous écoute, je suis circonspect. C'est un sujet qui me passionne et je n'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec des outils comme ça, digitaux, on est dans une partie travail et dans une partie hobby. Il y a la partie travail qui peut être très, très envahissante, très chronophage, et la partie hobby qui ne devient plus un hobby, en fait. C'est-à-dire que on dépasse le temps connecté. Et il y a un exemple fort, c'est, vous voyez que quand vous voyez des reels sur les réseaux sociaux, des réels, vous pouvez perdre un temps fou à regarder ces réels et à vous dire, au bout de 2 heures, je suis encore sur mon smartphone.
Moi, je ne regarde pas, mais en revanche, je vois que Manon Aublanc opine du bonnet, hoche de la tête. Quel est votre degré d'addiction ? Déjà, vous êtes comme nous, vous êtes journaliste comme moi. On est obligé de regarder Twitter, savoir ce qui se passe. Moi, j'ai découvert hier soir que le compte de Trump sur Insta avait été réactivé regardant le compte de CNN. C'est comme ça que je l'ai su.
Oui, moi, je suis obligé de garder Twitter pour le boulot. Mais c'est vrai que, par exemple, pour Instagram, j'essaye de diminuer. Et je m'oblige, par exemple, le soir, une fois qu'on a fini de manger, à ne pas réouvrir les réseaux sociaux, ni que ce soit le premier réflexe le matin. Mais effectivement, Twitter, on est un peu obligé.
Ça, c'est un bon réflexe. L'idée de se mettre en mode avion... à partir, je sais pas, de 22h à 7h du matin, pour les adultes, c'est un bon réflexe. Et il y a un point important, c'est que nous, en tant qu'adultes, il faut donner l'exemple, parce que sinon, c'est l'enfer chez les enfants et les ados.
Évidemment. J'aime beaucoup cette phrase, j'essaye de diminuer, on dirait un sketch des Inconnus avec un type qui est accro au vin blanc, au muscadet.
Mais on est dans cette dynamique-là. Quand vous êtes consommateur excessif de n'importe quoi, la première chose que vous dites est... Il faut que j'essaye de diminuer quand même. Il y en a même qui disent, bon, allez, promis demain, j'arrête de faire ci, je vais faire ça, etc. Mais on ne le tient pas. Les résolutions, ça ne tient pas.
Demain, j'arrête, c'était un livre de Gilles Le Gardinier qui avait cartonné, justement. Parce que tout le monde s'était reconnu dans cette phrase, demain, j'arrête.
Et l'idée, c'est régulons notre consommation. Alors, en tant qu'adulte, on peut réguler.
Dans votre article, Manon Aublanc, il y a Johan qui a arrêté les applis parce que ça le déprimait de voir les gens marcher dans la rue comme des zombies fixés sur leur portable. Vous connaissez le nom de cette... de ce trouble ?
Pas du tout.
Les smombies, je ne sais pas comment on prononce ça, vous connaissez ça, vous ?
Les smombies, c'est la contraction de zombie et smartphone, en fait.
Ah oui, je ne savais pas. Laurent Carilla, vous racontez qu'en Allemagne, dans votre livre, vous racontez qu'en Allemagne, en Israël, ils ont mis en place des bandes lumineuses au sol qui sont connectées aux feux de signalisation parce que les piétons ne regardent plus les feux et leurs yeux étaient rivés sur l'écran de leur portable. Ça va jusque-là.
Smombies, vous en voyez dans la rue quand même. Ils sont tête baissée, ils marchent, ils font attention à rien. Donc il y a des risques d'accident de la voie publique. Ouais. C'est le premier truc. Donc il y a des villes, des pays qui se sont dit... on va mettre en place des mesures de prévention pour éviter les accidents.
Voilà. Et puis, Manon Aublanc, je vais continuer le quiz. Si vous ne trouvez pas, je donne la réponse. Et Laurent Carilla va développer le fubbing. Savez-vous ce que c'est le fubbing ?
Aucune idée.
Laurent Carilla. Fubbing, c'est un mot valise. C'est télésnobé. Alors, c'est quoi ? On est, par exemple, vous, moi et Manon en train de parler. On parle, là, comme ça. Et hop, Manon sort son smartphone et regarde ses réseaux sociaux pendant qu'on parle. Mmh. C'est ça, le télésnobbing.
Ça arrive même parfois dans des émissions de radio et de télévision.
Exactement.
Vous restez avec nous. Manon Aublanc, journaliste à 20 minutes. Laurent Carilla, psychiatre et addictologue. Vous êtes accro à Culture Média. Vous avez bien raison. On revient très
C'est
vite.
Positif.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
On parle des accros, du portable et des réseaux sociaux, mais d'une très belle manière, plutôt neuve. C'est Manon Aublanc, journaliste à 20 minutes, qui a eu l'idée de demander aux Français quelles étaient leurs bonnes résolutions pour l'année 2023. Et la surprise, parmi les bonnes résolutions, au-delà des classiques, manger moins, boire moins d'alcool, faire du sport, s'inscrire à la salle, moins regarder son portable, être moins présent sur les réseaux sociaux. Elle est avec nous, Manon Aublanc. On est en compagnie de Laurent Carilla également, qui est psychiatre et addictologue. Tout ça pour dire que c'est du sérieux et c'est pas seulement un sujet anecdotique. Manon Aublanc, dans le livre de Laurent Carilla, On n'a qu'une vie, des conseils pour souffler, déculpabiliser, c'est chez Fayard. Il parle de sleep phoneur. Vous devinez ce que ça peut être, un sleep phoneur?
Je suppose que c'est mettre son téléphone en mode avion le soir.
Laurent Carilla.
Non, c'est des gens qui ne se mettent pas en mode avion du tout. Ils sont en mode veille permanent pendant la nuit.
Ah, c'est l'inverse.
Et ils attendent la notification, ils attendent le flash.
Attendez,
lumineux.
Ça existe.
Oui, il y en a qui dorment avec, il y en a même qui dorment l'oreille contre leur smartphone et le smartphone sur l'oreiller. Et en fait, vous vous doutez bien que ça fait des troubles du sommeil incroyables.
Surtout si vous êtes journaliste et qu'il y a une alerte toutes les 20 minutes.
Je pense qu'il peut y avoir des sleep phoneurs parmi les journalistes.
La nomophobie, ça je connaissais. Vous connaissez Manon?
Non plus.
La nomophobie, c'est la contraction, c'est un mot valise de nomobile phobia. Il n'y a pas de racine grecque ou latine là-dedans. C'est le syndrome de l'anxiété. Enfin, c'est l'anxiété de la batterie vide ou de l'absence du réseau Wi-Fi. On a tous déjà ressenti ça. Ben, ça devient pathologique quand c'est non-stop. Et surtout, quand on oublie son téléphone, parce que c'est souvent associé à ce qu'on appelle le FOMO. Le FOMO, c'est Fear of Missing Out. Ça veut dire la peur de ne pas être au courant de ce qui se passe au moment immédiat sur les réseaux.
On voit ça dans les émissions de télé-réalité ou pas d'ailleurs, dans la Star Academy ou dans Rendez-vous en Terre Inconnue.
Ouais.
Le premier problème, il y a même des gens qui ont refusé de participer à l'émission parce qu'il fallait laisser son portable.
Et ben, c'est des nomophobes avec FOMO.
Voilà. Celui-ci, il est introuvable, donc maintenant, je ne pourrais pas deviner parce que moi, je n'aurais jamais trouvé. Déjà, je ne connaissais pas la racine grecque. L'atazagoraphobie.
L'atazagoraphobie.
Digital.
Ouais, c'est un super mot. D'abord, vous pouvez cartonner au Scrabble si vous jouez au Scrabble avec ce mot.
Ouais, mais il faut beaucoup de lettres.
La tazagoraphobie, c'est quoi? C'est vous envoyez des messages, vous postez sur les réseaux, etc. Mais vous recevez rien en échange. Pas de like, pas de commentaire. Vous envoyez un message WhatsApp. Vous n'avez pas le retour tout de suite. Et vous vous mettez à paniquer, à interpréter de manière paranoïaque les choses. Ça devient pathologique quand ça c'est envahissant, en fait.
Et ça vous parle, Manon Blanc?
Ça m'arrive d'envoyer des propositions de soirée, de ne pas avoir de réponse. Mais,
ouais, là, c'est quand c'est répété. Hein.
Mais ça, c'est mes amis qui se reconnaîtront.
Voilà, je vous dis, répondez à Manon quand elle vous envoie une invite pour une soirée. Et alors, quand on cumule tout ceci, ça sera mon dernière question, on est touché par le HUC. Fallait oser celle-là, vous avez fait exprès. Luc, HUC, vous avez déjà entendu parler?
Non.
L'hyper usage connecté, je pensais jamais poser une question pareille. Est-ce que le HUC, c'est dangereux?
Bah ouais, ça peut être dangereux, le HUC. J'avais pas pensé à HUC, mais ouais, ça peut être dangereux. On est dans un usage problématique et inadapté de médias digitaux avec des conséquences. C'est des conséquences qui sont d'abord sociales au premier plan, mais il y a aussi des conséquences physiques, vous savez, et des conséquences psychologiques. Hein.
Quelles conséquences psychologiques ont sans doute? Quelles conséquences physiques?
Conséquences physiques, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des nausées, on peut avoir... Il y a une épidémie de myopie comportementale chez les plus de 12 ans, à cause des réseaux, à cause du digital. Il y a aussi ce qu'on appelle une fatigue visuelle, parce qu'on accommode en permanence avec les yeux et ça nous fatigue, c'est vraiment pénible. Ça s'appelle le syndrome de déficience visuelle numérique. Et on peut avoir des troubles alimentaires aussi, rester scotché, donc on ne va pas être anorexique ni boulimique, mais on va manger n'importe quoi pour rester scotché à son ordinateur. Et il y a aussi des douleurs, il y a de très belles études indiennes qui montrent des atteintes des pouces, des atteintes musculo-squelettiques des pouces à force de taper sur son téléphone.
Manon Aublan, je rappelle que vous êtes journaliste à 20 minutes. Dans cette enquête, vous aviez fait parler Johan, qui témoignait dans votre article. Johan en avait assez, je le cite, de regarder des défis crétins sur les réseaux sociaux pendant que ses enfants étaient dans le salon. Du jour au lendemain, en fin d'année, il vous raconte ceci, il a désinstallé tous ses réseaux et il est avec nous. Johan, bonjour.
Bonjour Philippe.
Merci d'être en direct avec nous. La question est évidente, vous avez dit « je vais tout désinstaller ». Avez-vous tenu le coup?
Eh ben oui. C'est
vous
vrai.
Aviez quoi
moi, ma démarche,
Vous aviez quoi et ça se passait comment?
Eh ben en fait, j'avais principalement Twitter, Insta. Je me suis beaucoup retrouvé dans certaines remarques que vous avez échangées tout à l'heure avec vos invités. Mais j'étais du genre voilà à réactualiser Twitter 4-5 fois par jour pour être sûr de ne pas rater un article.
Pardon, juste une question. Ouais. Est-ce que vous êtes journaliste et sinon, quelle est votre profession?
Non, je suis consultant en informatique, donc je travaille.
D'accord, donc tout ça pour dire qu'il est possible dans votre métier de vous passer de Twitter, voilà ce que je voulais dire.
Exactement,
voilà.
Ouais, tout à fait. Ouais, je suis vraiment un consommateur comme beaucoup de personnes pourraient se reconnaître.
Et au-delà de Twitter, quelles autres applications?
Eh ben, il y avait Facebook, parce que moi, je suis un cadrat. Donc forcément, on avait démarré les réseaux sociaux avec Facebook, et puis Instagram, et puis aussi tous les sites d'actualité, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais dans la... dans l'addiction digitale, il y a aussi ce besoin d'être parfois tout le temps informé, même si ça ne passe pas forcément par des réseaux sociaux. Donc les sites d'actualité peuvent aussi en faire partie. Je pouvais regarder Google Actualité jusqu'au bout du fil pour être sûr de n'en rien avoir raté.
Et quel a été le déclic pour arrêter, Johan?
Et bah pour arrêter, après, c'était d'abord une démarche personnelle, mais aussi parce que je voulais pas faire partie, avoir ce comportement d'une société que je ne veux pas, quoi. Quand vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, Philippe, que c'était normal dans une file d'attente de prendre son téléphone parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire.
Ouais.
Bah moi, justement, j'avais pris conscience que on ne prenait plus assez le temps d'être dans la contemplation, dans l'observation, dans l'ennui, et que ça créait en fait un stress et des problématiques.
C'est un débat. C'est un débat pascalien, l'ennui. Mais moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un déclic pour arrêter. Vous avez dit, il y a un moment là, c'est trop.
Ah oui, avec vos enfants. Ah bah c'était clairement face à mes enfants. Je suis papa et j'ai clairement dit à ma fille d'aller voir ailleurs parce que j'étais en train de terminer de consulter un article alors qu'elle était en train de me raconter sa journée.
Oh là,
donc là pour moi c'était un peu trop et je me suis dit voilà comment faire sachant que ma fille qui a 8 ans va bientôt être concernée par ça pour ne pas être un réac et pas être comme un fumeur qui dirait à son fils de ne pas fumer en lui soufflant une bouffée de cigarette, ça n'a pas de sens. Et donc du coup, je me suis dit voilà, il faut arrêter.
Ouais. Alors attendez, parce que le temps est court, c'est comme sur les réseaux sociaux, il vous reste 140 signes, si j'ose dire. Vous avez tout arrêté. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va moins bien? Est-ce que ça va pareil?
Ça va beaucoup mieux. Je n'ai plus du tout d'internet digital sur mon téléphone et j'écoute la radio le matin. Voilà, je m'informe différemment. Je passe à côté de plein de choses, mais ça ne me manque absolument pas. Et je témoigne un petit peu autour de moi de ça. Je veux pas faire non plus, je veux pas forcément être trop donneur de leçons, mais pour tous les gens qui se reconnaîtraient, je vous jure que c'est très facile de désinstaller tout ça. Après, nécessairement, on peut consulter encore sur un PC, mais l'intérêt c'est de plus avoir ça dans sa poche en permanence.
Ouais. Et si vous êtes, et j'imagine que si vous êtes consultant informatique, vous passez du temps sur votre PC. Merci beaucoup, Johan. Laurent Carrella, d'un mot, conclusion à ce que vient de dire Johan.
C'est une option, mais l'immense majorité des gens, moi ce que je recommande, c'est quand même de réguler votre consommation. Et il y a des études qui disent, faites des breaks un peu dans la journée de réseaux sociaux et de digital, ça vous fera du bien.
Manon Blanc, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci pour cette idée.
Merci
vous
beaucoup.
Vous êtes journaliste à 20 minutes. Laurent Carrella, je rappelle que vous êtes psychiatre, addictologue. Je rappelle votre dernière publication, On n'a qu'une vie, !. C'est sous-titré Conseils pour souffler, déculpabiliser et reprendre du plaisir. C'est chez Fayard. Et puis, il y a aussi votre podcast qu'on peut écouter. Redonnez le titre, s'il
le
vous plaît.
Le podcast Addiction avec un K au milieu, produit par Stéphanie Guérin.
Merci d'avoir été avec nous. Nous, on va se retrouver dans un instant avec une nouvelle tête dans les JT du week-end d'M6, c'est Dominique Tenza. Et puis on va également retrouver Bruno Donnet pour ses télescopages. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans un instant, nous recevons le nouveau visage de l'info de M6, le journaliste Dominique Tenza. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous penchez ici sur la fabrique médiatique. Et ce matin, vous vouliez nous dire un mot du journaliste Victor Castanet, dont les nouvelles révélations vous ont beaucoup intéressé.
Oui, Victor Castanet, vous vous souvenez de lui, hein, Philippe. C'est cet enquêteur opiniâtre qui nous a livré, il y a tout juste un an, un ouvrage stupéfiant, Les Fossoyeurs, dans lequel il révélait les méthodes plus que scandaleuses du géant des maisons de retraite Orpea. Eh bien, figurez-vous qu'il vient tout juste de faire paraître une réédition augmentée de son livre, une version enrichie, de 10 nouveaux chapitres dans lesquels il raconte, et c'est passionnant pour une émission média comme la nôtre, comment certains acteurs ont tenté d'empêcher ces informations d'arriver jusqu'au grand public.
Une société cotée en bourse comme Orpea fait appel à un certain nombre d'acteurs de l'ombre, dont des sociétés d'intelligence économique, des boîtes de communication de crise comme Imachette, pour manipuler l'information, allumer des contrefeux et essayer de limiter l'impact.
Victor Castanet l'a raconté hier soir sur France 5, Orpea a tenté de faire enterrer les fossoyeurs. Et pour manipuler l'information, comme il le dit, eh bien le groupe a fait appel entre autres à la société Image 7 qui a employé des méthodes dont on ne soupçonnait pas l'existence. Par exemple, cette société a eu l'idée d'influencer les médias en prenant une initiative incroyablement pernicieuse.
Elle met en place, peu après avoir reçu mes questions à l'été 2021, un sondage d'ampleur avec la société Odoxa sur le bien vieillir.
Elle a commandé un sondage dont le résultat laissait apparaître qu'on vieillissait plutôt très bien en France et que l'on devait ce résultat essentiellement au travail des EHPAD. Bien. Mais ce qui est spectaculaire, Philippe, c'est l'écho dont ce sondage a finalement bénéficié et la manière dont il a réussi à infiltrer les médias.
Et ce sondage, il va être mis sous embargo jusqu'au 23 janvier, donc la veille de la parution des bonnes feuilles dans le Monde. Et il va être mis en avant par des journalistes dans l'émission Les Informés sur France Info.
Car oui, présenté comme une information de la plus haute importance, ce sondage visait en fait à installer une image positive des EHPAD.
Et à ce moment-là, ni les journalistes en plateau, ni le grand public n'est au courant que ce sondage est mis en place pour contrecarrer une enquête journalistique à paraître dans 48 heures.
Mais c'est pas tout. Dans son livre, Victor Castanet raconte aussi que des sociétés d'intelligence économique, j'adore ce terme, ont également allègrement manipulé l'information pour essayer d'embobiner l'opinion. Par exemple, le journaliste explique que l'an dernier, dans l'émission de Cyril Hanouna sur C8, l'animateur a lancé une grande consultation sur Twitter.
Là, l'angle, c'est est-ce que les accusations du livre sont infondées ?
Il a demandé à ses téléspectateurs s'il pensait que Victor Castanet disait « La vérité, les résultats sans équivoque sont tombés et ils ont été livrés à l'antenne ».
Effectivement, dans les résultats, vous avez 72 000 et quelques participants. Il y a plus de 70% qui vont dire que les accusations du livre sont infondées.
Le hic, c'est qu'en menant sa petite enquête, Victor Castanet s'est aperçu que les résultats avaient été très largement truqués, faussés. Non pas par l'émission elle-même, mais bien par une société spécialisée et mandatée par Orpea.
Et en fait, on apprend quelques jours plus tard qu'il y a une boîte de réputation digitale qui a été missionnée par un des acteurs du secteur des EHPAD pour manipuler ce sondage. Et en vrai, ça coûte rien. C'est extrêmement facile à faire.
Eh oui, car comme Victor Castanet l'a expliqué hier sur RTL, dont il était également l'invité, orienter un sondage de ce type est un jeu d'enfant.
Ils font appel à une armée de faux comptes Twitter et en deux secondes, pour moins de 10 000 euros,
ils inversent le sondage.
Alors voilà, ces nouvelles révélations sont importantes, hein, Philippe, car elles viennent nous montrer que si l'information est puissante, elle est aussi infiniment fragile. Attaquée, malmenée par des spécialistes dont c'est aujourd'hui le métier, car si dans le cas d'Orpea, leur travail de sape n'a heureusement pas réussi à fonctionner, le simple fait que ces sociétés-là existent et qu'elles soient si grassement rémunérées par leurs clients démontre que leurs missions réussissent forcément. Très régulièrement, un an après la sortie des Fossoyeurs, Victor Castanet a remporté le prix Albert Londres. Quant à Orpea, eh bien elle est toujours en contrat avec la société Image 7 Fidélité, quand tu nous tiens.
Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. On va continuer à parler de journalisme. Bonjour Dominique Tenza.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes journaliste, je l'ai dit, vous êtes le nouveau visage de l'info de M6. À quoi tiennent les carrières? C'est vous qui présentez désormais les JT du week-end sur M6 à cause, ou plutôt grâce à ça. I put a spell on you because you're mine. Oh, you're mine. Cette voix de velours, c'est celle de la journaliste Karine Gyokturam qui a décidé de changer de vie pendant 8 mois, au moins jusqu'à la fin août pour se lancer dans la chanson. C'est elle qui présentait le 12h45 en semaine sur M6. Du coup, il y a un jeu de chaise musicale. Racontez-le-nous d'un mot.
Alors, Nathalie Renaud qui présentait les journaux du week-end. Donc, le journal du week-end, c'est vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir, a souhaité passer en semaine. Mm-hmm. Donc, elle présente le 12h45 du lundi au vendredi. Et on m'a proposé de remplacer Nathalie jusqu'à effectivement la fin du mois d'août, donc les journaux du week-end.
Deux fois deux éditions, le samedi et le dimanche, 12h45, 19h45. Vous étiez déjà le joker de Xavier Dumoulin, notamment pendant les vacances d'été pour le 19h45. Ouais. Comment vous avez pris cette nouvelle? Vous avez hésité ou vous avez dit oui tout de suite?
Ouais, j'ai dû hésiter quelques secondes. Ouais. Non, franchement, quand on vous fait une proposition comme ça, il est difficile de résister. Moi, ça faisait 15 ans que je faisais de la radio, donc j'avais aussi envie de faire autre chose.
On va dire, vous étiez chez nos confrères d'RTL, on va les citer une fois, comme ça c'est fait. Voilà. C'est le même groupe, c'est l'immeuble d'en face.
C'est l'immeuble d'en face, voilà, il y a juste à traverser la rue. On me propose cette opportunité, parce que ça n'arrive pas tous les jours. la porte s'entrouvre, et bah là je mets un pied dedans et je me dis bien sûr je suis partant. Ça bouleverse un peu mon rythme, parce que sur la radio d'en face j'étais en matinale tous les matins, du lundi au vendredi, avec un réveil à 2h du matin. Là je me retrouve à travailler le week-end, tous les week-ends, je me lève plus le matin, mais je travaille tous les week-ends.
Vous n'aviez jamais fait de télévision auparavant ?
Jamais.
Vous aviez fait les remplacements de Xavier Demoulin
absolument.
L'an passé, simplement.
Ouais, l'été, puis quelques vacances.
Est-ce qu'ils vous ont relooké ? Parce que ça existe aussi en télévision, quand on est journaliste radio, on a la chance de pouvoir venir habiller comme on veut. Je vois votre sourire que vous comprenez exactement le sens de ma question. Est-ce qu'ils vous ont emmené aussi chez le coiffeur ? Est-ce que vous avez retaillé votre barbe ?
Alors,
Qu'est-ce qui s'est passé de ce point de vue ?
Alors évidemment, vous travaillez à la radio, vous pouvez venir avec une barbe mal taillée, avec un sweat à capuche, avec un t-shirt drôle, avec en télé, c'est un peu différent. Donc, il y a le passage chez le styliste. Il faut choisir le costume. La barbe, elle a intérêt à être plutôt bien taillée. J'ai le droit de la garder, mais à condition qu'elle soit bien taillée. Tout ça, c'est pas grand-chose. Mais évidemment, vous ne travaillez pas de la même manière à la télé qu'à la radio.
On va revenir au journalisme. Dans quel état étiez-vous pour vos premières ?
Un peu de trac quand même, parce que j'ai la chance... Alors, première à la radio ou à la télé ?
La première à la télé.
À la télé. Oui, un petit peu
parce
de trac.
Parce que le travail est différent. Ouais. Vous n'avez pas de feuille avec votre avec le texte,
c'est un
prompteur, et surtout vous n'êtes pas assis comme nous le sommes ici à la radio, mais vous êtes debout et en plus
tout
sur ce plateau-là, tout seul, et vous devez marcher sur le plateau comme un comédien.
Oui, il y a une chorégraphie, c'est une des spécificités des journaux d'M6 qui sont présentés debout. Alors quand je dis chorégraphie, c'est trois pas en avant, trois pas en arrière.
C'est pas à bas non plus. Hein.
Mais quand vous maîtrisez pas l'exercice télé, l'exercice du JT, c'était mon cas, quand vous débarquez et que vous devez déjà lire sur un prompteur le texte, avec une tablette dans les mains, en étant debout, en pensant aux trois pas en avant, cinq pas en arrière, là, à ce moment-là, attention, le décompte, moins deux, tu commences à passer, parce qu'il y a pas mal de choses à prendre au début, à se mettre dans la tête. Un petit peu stressé. Je me dis, si là, je me casse la figure, c'est du direct. Le journal, c'est du direct. On ne peut pas tricher. Là, je suis tout seul.
Vous regardez après chaque passage ?
Non. Comme la même manière que je ne m'écoutais pas en radio parce que j'ai beaucoup de mal avec ma voix, je sais pas. Probablement, certains se regardent après. Si, au début, peut-être une ou deux fois pour savoir, pour essayer de comprendre ce qui pouvait aller, ce que je pouvais améliorer, j'ai du mal à m'en garder.
Question évidente, ou plutôt question évidente, mais réponse pas évidente. Quelle est votre touche personnelle ? Quelle patte vous a posée sur votre journal ?
C'est pas évident parce que c'est un exercice qui est quand même assez codifié. Le journal télé, ça marchait déjà très bien. Enfin, ça marche très bien. Pas eu besoin de moi pour que ça fonctionne. Encore une fois, je travaillais dans une radio qui était connue pour sa proximité avec les gens. C'est un peu la même ligne éditoriale. M6, c'est de la proximité, c'est de la pédagogie. Peut-être que c'est la touche que je peux apporter avec l'expérience que j'ai eue avant.
Alors, j'ai regardé évidemment vos journaux. J'ai regardé le journal de dimanche, le 19-45. Vous avez parlé de ce photographe dans la manif qui a reçu un coup de matraque aux parties génitales qui a dû être amputé d'un testicule. Et vous avez donné une info que les confrères ont très peu donnée. En tout cas, avant vous, je ne l'avais pas entendue.
Et puis cette plainte déposée par l'avocate d'un photographe franco-espagnol présent lors de la manifestation contre les retraites jeudi. L'homme âgé de 20 ans.
Si j'ai bien compris, vous êtes franco-espagnol.
Moi, je suis franco-espagnol.
Voilà, oui.
Oui,
et le photographe aussi.
Le photographe aussi,
Il n'y a que vous qui avez donné cette info.
Alors, au début, on pensait
que c'était un photographe. Les autres disaient c'est un photographe.
Ah ouais, non, c'est un photographe franco-espagnol. Ouais.
Et donc, je me suis dit, tiens, il est franco-espagnol, ça vous avait échappé.
Non, j'ai lu qu'il était franco-espagnol, effectivement.
Et donc, vous l'avez gardé dans votre texte.
Et je l'ai gardé dans mon texte,
Voilà, alors que pour ce qui lui est arrivé, malheureusement, sa nationalité importe peu.
Oui, mais c'était un détail qui, pour moi, comptait. C'était un franco-espagnol. Puis qui était là, je crois, pour suivre la. Je
même pas j'ai cru que vous alliez citer France Gall.
Ah, non.
C'est peut-être un détail pour vous, mais moi, ça veut dire beaucoup.
Pour moi, voilà.
Autre sujet concernant, c'est le premier sujet magazine de votre JT de dimanche dernier.
Il vous est forcément arrivé de vous adresser à un bébé, peut-être le vôtre d'ailleurs, en prenant une petite voix aiguë, un peu gaga, en modifiant l'intonation. On ne peut d'ailleurs souvent pas s'en empêcher. Cela porte un nom, c'est le parler bébé. Et plusieurs études récentes tentent à montrer que cette manière de faire n'est pas si bête et si inutile que ça. Elle peut même se révéler bénéfique pour l'enfant. Et on en parle ce soir avec Vicky Bogart. Alors Vicky, ce parler bébé permet-il vraiment de faire progresser les tout-petits ?
Et à propos du parler bébé, vous dites on ne peut pas s'en empêcher. Je me suis dit, ça sent le vécu.
Ah ben, ça sent le vécu, forcément. Oui. On a tous parlé à son bébé, au bébé des autres, comme ça, avec une petite voix, comme ça.
Ils ont quel âge, vos enfants?
J'ai deux filles de 4 et 6 ans, bientôt 5 et 7.
Je ne peux pas ne pas vous demander de raconter l'anecdote de la première fois où votre petite fille vous a vu à la télé, sur la grosse télé du salon.
En fait, elle a cru que j'étais dans le salon. Donc elle regarde et elle s'approche de la télé et elle me parle, comme si j'allais lui répondre. Et elle me dit, papa, je vais faire pipi. Et je reviens. Et donc voilà, je suis rentré. Ma femme m'a raconté ça, j'ai trouvé ça assez touchant. Alors maintenant, elles sont presque lassées. J'ai l'impression qu'elles zappent et regardent des dessins animés.
Tiens, au fait, la notoriété, vous êtes reconnu dans la rue?
Non.
Pas encore. Il faut passer encore plus de fois à la télé.
Sans doute.
Je l'ai dit, vous tenez votre place au fait que la journaliste Karine Gyokturam a décidé de se lancer dans la chanson, au moins jusqu'à fin août. Et si ça cartonne, si elle vend des centaines de milliers de disques,
ce que je lui souhaite,
si elle remplit des salles, vous êtes OK pour devenir titulaire des journaux du week-end? Que vous a dit la chaîne?
La chaîne m'a dit, j'ai signé un avenant, pour être très transparent, j'ai un avenant à mon contrat, je garde mon contrat RTL, groupe M6, et j'ai un avenant pour travailler, pour remplacer le départ de Karine pendant 6 mois, un peu plus jusqu'à la fin août.
8 mois.
Fin août.
Mais si elle ne revient pas?
Si elle ne revient pas, après la question se posera. Aujourd'hui, elle revient. Moi, je vais citer mon directeur de l'information, Stéphane Gendarme, qui m'a dit, c'est un prêt entre deux clubs avec option d'achat. Et je crois que ça résume bien la chose.
Merci beaucoup, Dominique Tenza, présentateur des JT du week-end sur M6. Votre prochain journal, ce sera donc samedi à 12h.
Vendredi soir.
Il y en a cinq. Ah, donc j'ai dit quelque chose de fou.
Vendredi soir, 19h45 également.
Comme Claire Chazal à la grande époque de TF1.
Exactement.
Le vendredi soir, le samedi midi, le samedi soir, le dimanche midi, le dimanche soir.
Voilà.
5 journaux par semaine. Merci d'avoir été avec
Philippe
nous, Dominique Tenza. Culture Média continue évidemment sur Europe 1. Il y aura les infos de 10h. Notre invité sera celui qu'on avait découvert en Hervé, agent de star dans 10%, Nicolas Moril. Sort son premier album, il est très réussi. Il s'appelle La Porcelaine des Limoges. Il y aura même un live en direct dans ce studio. Et puis dans les indispensables, Frédéric Le Ternier nous emmène à une expo à l'Institut du Monde Arabe et Nicolas Carreau nous parle d'une sortie littéraire très attendue pour ce début d'année, le roman Un vrai dépaysement, signé Clément Bénèche, Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage également dans ce studio. A tout de suite, on est en direct, 9h57.